À l'écoute de RFI, 3h30 en temps universel, il est 4h30 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI, Arthur Ponchelet.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Afrique Matin qui commence, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité africaine de ce jeudi 27 février et on commence avec le journal. À la une ce matin, on fait le point sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment sur les hauts plateaux du Sud Kivu. Les militaires congolais appuyés par leurs alliés burundais affrontent un groupe armé local. Nous allons nous battre avec la justice pour calmer les choses. Les mots de Karim Khan hier à Kinshasa. Le procureur de la Cour pénale internationale était en RDC pour enquêter sur les crimes commis dans l'Est. Il s'est entretenu avec Félix Tshisekedi. Les élus locaux, victimes de la violence contre la classe politique à Madagascar. Une mère a été assassinée en fin de semaine dernière dans le centre de la Grande Île. Au sommaire également, on est à New York dans les coulisses de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée au Soudan. En Afrique du Sud, au cœur du sommet Finances en commun. Et puis on parle de foot à la fin de ce journal avec un vétéran du ballon rond sénégalais, Cherne Doy, 38 ans, continue de briller en Coupe de France. C'est une zone stratégique, une région montagneuse qui surplombe le lac Tanganyika dans l'est de la RDC. Depuis 6 jours, les hauts plateaux du Sud Kivu sont le théâtre d'affrontements. Coralie Pierret, d'un côté, il y a les FARDC, leurs alliés burundais et des milices locales. De l'autre, un groupe armé allié au M23 soutenu par le Rwanda.
Jusqu'à présent, le ralliement du groupe d'autodéfense Twirwaneho à l'AFC M23 soutenu par le Rwanda n'avait pas été officialisé. Le 21 février, leur alliance s'est annoncée dans un communiqué, 2 jours après la mort de leur chef Michel Rukunda, alias Makanika, le 19 février dans une frappe de drone congolais. Depuis, les communes rurales de Minembwe et de Mikenge sont le théâtre d'affrontements, selon plusieurs sources, entre les multiples forces en présence dans la zone. Les Twirwaneho, qui disent défendre la communauté des Banyamulenge, les Tutsis du Sud Kivu, se sont affichés devant la mairie et l'aérodrome de Minembwe en fin de semaine dernière et ont été aperçus à Mikenge en début de semaine. Ils s'opposent aux troupes composées de militaires congolais, de plusieurs milices et de soldats de l'armée burundaise, toujours dans la zone, même si à la mi-février, selon plusieurs sources humanitaires et locales, certains soldats burundais avaient enclenché leur retrait des hauts plateaux. Cette zone, importante à la fois parce qu'elle est l'arrière-pays d'Uvira, située en face de la capitale économique du Burundi, Bujumbura, mais aussi parce qu'elle est située au nord de Kalemie, le chef-lieu de la province du Tanganyika, une ville qui donne un accès au lac du même nom, qui fait frontière entre la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et c'est justement à Kalemie que 2500 soldats sont arrivés il y a une semaine, conséquence de l'avancée de l'AFC M23 vers Uvira. Cette présence militaire avait semé la panique dans la ville. Mais ce matin, le maire David Mukeba indique à RFI que la sécurité est sous contrôle et que les soldats seront bientôt redéployés au front. Le chef d'état-major des FARDC s'est même rendu sur place il y a 3 jours, évoquant la nécessité d'assurer la sécurité. Lui était à Kinshasa depuis lundi. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a quitté hier la capitale congolaise. Avant cela, il s'est entretenu avec Félix Tshisekedi, des hauts magistrats et des associations de victimes. Une visite pour enquêter sur les crimes commis dans l'est du pays.
Je suis ici, nous sommes en train d'enquêter. Nous avons une nouvelle approche qui doit prouver toutes les responsabilités et créer de nouvelles structures comme un tribunal pénal international pour le Congo et construire de nouveaux partenariats. Personne ne peut prétendre être irréprochable. Je le dis clairement, toutes les parties, le M23 et les alliés, doivent se conformer à la loi. Nous avançons avec les enquêtes. Vos auditeurs doivent savoir que si nous disons quelque chose, c'est que nous y tenons. Ce qui se passe dans l'est de la RDC est inacceptable. Déjà, des crimes visés par le statut de Rome sont en train d'être commis. Nous sommes en train d'analyser qui en est responsable. Si nous obtenons les éléments de preuve de qui est responsable, alors nous allons agir. Nous avons besoin de l'appui international, de sorte que si les juges prennent une décision, elle soit respectée. C'est la seule armes que nous avons. Nous n'allons pas nous battre avec des armes, pas avec des insultes pour enflammer les émotions et les passions. Nous allons nous battre avec la justice pour calmer les choses sans distinction, car toute vie est précieuse.
Le procureur de la Cour pénale internationale au micro RFI de Pascal Mouligois. En bref, nouvelle tension entre la France et l'Algérie. Hier, le Premier ministre français a dit vouloir réexaminer la totalité des accords de 68 entre les deux pays. Conséquence des débats autour de la question migratoire, débat relancé il y a quelques jours dans l'Hexagone après l'attentat de Mulhouse commis par un ressortissant algérien. Il était frappé d'une OQTF, obligation de quitter le territoire, mais avait été renvoyé à 14 reprises par l'Algérie. On en parle avec notre invité à 6h20 en universel, le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat français. À l'écoute de RFI, 3h35 en temps universel. L'actualité à Madagascar et cette alerte sur la violence contre les élus. En fin de semaine dernière, la maire d'une commune rurale dans le centre du pays a été assassinée, tuée par balle. 6 suspects ont été arrêtés, mais on ne connaît pas encore leur motivation exacte. RFI Tana, Guillaume Fabry.
C'est au lendemain de son investiture comme maire de la commune rurale de Mangatabouang que Narinjan Yainar, à Nivoarivoni, 31 ans, a été tué par un groupe d'assaillants lourdement armés. Dans les régions rurales en proie au vol de zébus, les maires sont particulièrement vulnérables, souligne le professeur d'histoire contemporaine Jeannot Rassolo-Harisson.
Les maires délivrent des papiers qui attestent à la propriété du zébu. Avec le phénomène de vol de zébus, le maire refuse quelquefois de délivrer les papiers lorsqu'il constate que c'est pas bien prouvé l'origine des zébus à vendre. Et c'est là parfois l'origine de la violence à l'encontre des maires.
Pour Estelle Andjiamassi, présidente du Conseil national des femmes de Madagascar, cet assassinat est surtout emblématique des violences que subissent les rares femmes qui osent se lancer en politique.
La plupart des femmes en politique subissent des menaces. Et on a collecté beaucoup de cas de violence racontés par les femmes qui se présentaient comme candidates. C'est un grand défi à Madagascar, l'accès des femmes au pouvoir politique. Tout ce qui se passe là nous renforce encore à aller plus loin pour arriver à cette participation des femmes. Nous n'allons pas baisser les bras.
La police nationale a annoncé la mobilisation de renforts dans la région d'Amoroni-Mania où s'est produit l'assassinat afin de lutter contre l'insécurité. Guillaume Fabriant, Tananarive, RFI.
Au moins 9 morts dans une attaque dans le nord-ouest de la Centrafrique. Cela s'est passé mardi dans le village de Nzoro, à la frontière avec le Cameroun. Attaque attribuée à un groupe d'éleveurs armés. Plus de 700 maisons et commerces ont par ailleurs été incendiés. Le député de la localité, Bernard Dila, fait part de sa colère, estime que la zone est abandonnée par les autorités. Il appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Pas de réaction à ce stade de l'exécutif. Ouverture aujourd'hui de la période du dépôt des candidatures pour la présidentielle au Gabon. On votera le 12 avril prochain. Pour se présenter, il faut notamment rassembler une caution, 30 millions de francs, demandée par le code électoral. La participation à ce scrutin du chef de la transition, le général Oligui Nguema, est attendue. Le candidat unique de l'opposition en 2023, Albert Ondo-Ossa, lui, ne s'est pas encore prononcé. Pour l'heure, seules quelques personnalités de second ordre ont formellement annoncé leur intention de se présenter. Nouvelle réunion hier du Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer la situation au Soudan. Depuis près de 2 ans, le pays est en proie à la guerre. L'un des conflits les plus meurtrier au monde, des dizaines de milliers de morts, 12 millions de déplacés et près de la moitié du pays en insécurité alimentaire aiguë. À New York, hier, il a aussi été question de la situation politique. Dimanche dernier, les paramilitaires des FSR et leurs alliés ont décidé de créer un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Karine Newton est à New York pour RFI.
Hasard de calendrier, le Conseil de sécurité s'est réuni sur la guerre au Soudan alors que le Programme alimentaire mondial a annoncé suspendre ses opérations dans le camp de déplacés de Zamzam à l'ouest du pays. Le camp est pourtant frappé par la famine, mais la violence des combats depuis l'attaque des paramilitaires du FSR le 11 février l'a obligé à rapatrier ses équipes. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a expliqué à New York que de toute l'histoire, l'organisation n'a jamais dû autant solliciter les pays pour soutenir le Soudan. Pour subvenir aux besoins de 21 millions de Soudanais en 2025, elle doit lever 6 milliards de dollars. Par ailleurs, le Conseil s'est inquiété de la création sur le papier d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires du FSR et leurs alliés il y a quelques jours. Il craint une fragmentation, voire une partition du pays. Les pays africains du Conseil ont exhorté les FSR à préserver l'unité et l'intérêt national. Le Soudan a accusé le Kenya d'avoir reconnu ce gouvernement et de violer la charte de l'ONU, ce que le Kenya a démenti. Karine Hutton, New York RFI.
Autre réunion, celle des ministres des Finances du G20. Ça se passe au Cap, en Afrique du Sud. Hier, en ouverture, le président sud-africain a pris la parole. Cyril Ramaphosa parle d'une érosion du multilatéralisme, une menace qui pèse sur la croissance mondiale, selon lui. En parallèle de ce rendez-vous, se tient un autre sommet, celui de la finance en commun. 500 banques publiques de développement sont au Cap pour parler investissement dans de nombreux domaines. Un rendez-vous alors que les États-Unis ont annoncé des coupes budgétaires massives jusqu'à moins 90% dans leur programme de développement à l'étranger. Correspondance au Cap, signé Valentin Hugues.
C'est une réunion entre différents investisseurs du G20 pour demander plus de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. John Danton, secrétaire général de la Chambre internationale de commerce.
Nous nous dirigeons vers un moment charnière en 2025. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les gens vivent dans des économies qui fonctionnent. Nous accompagnons le secteur privé et les gouvernements doivent agir de manière à créer un environnement favorable aux investissements.
Favoriser le secteur privé, c'est par exemple ce qui a été mis en place par l'Afrique du Sud avec des subventions pour les entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables. Boitumelo Mosako, présidente de la Banque de développement d'Afrique australe.
En Afrique du Sud, par exemple, la Banque publique de développement et le gouvernement ont décidé de créer un environnement favorable à l'investissement dans les énergies renouvelables pour pousser le privé à investir. C'est un exemple marquant. Quand on crée un environnement favorable, il y a une participation du secteur privé. En tant que banque publique, c'est notre défi, réfléchir à comment attirer ces financements.
Il faut donc, je cite, « dérouler le tapis rouge au privé ». Et c'est une ambition clairement affichée par l'Afrique du Sud à la tête du G20 pour favoriser une croissance inclusive. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
On reste en Afrique du Sud à la rencontre d'un artiste inclassable, Abel Selao Tchoué. Ce compositeur est un véritable touche-à-tout, violoncelliste, chanteur, mais aussi fan de musique baroque et de polyphonie zoulou. À 32 ans, il sort un nouvel album, Hymns of Bantu, 12 titres très éclectiques, Carmen Lunsman.
C'est un retour aux sources pour le Sud-Africain Abel Selao Tchoué et un hommage aux héros de la lutte contre l'apartheid.
I live by this code of Ubuntu.
Je vis par le code Ubuntu, cette notion humaniste, je suis parce que vous êtes. Je me tiens sur les épaules de géants, mes ancêtres qui se sont battus pour ma liberté, Desmond Tutu, Steve Biko, Chris Annie, c'est de là que je tire mon inspiration.
My source of inspiration from.
Issu d'un township près de Johannesburg, ce fils d'un mécanicien et d'une femme de ménage a dû faire preuve d'imagination pour apprendre le violoncelle à 11 ans.
Because of a lack of resources.
En raison du manque de ressources, on avait accès à l'instrument seulement une fois par semaine. On a donc dessiné 4 lignes pour les cordes et on a posé nos doigts sur le papier pour imaginer le son à l'intérieur. Plus vous vous montrez ingénieux, plus les gens vous donnent l'opportunité.
Aujourd'hui, Abel Selao Tchoué passe du violoncelle à la voix, de la musique occidentale aux rythmes africains pour célébrer le métissage et le dialogue entre les cultures, où, comme il le chante en bantou, tout est lié.
Bantu, le deuxième album d'Abel Selao Tchoué qui sera le choix musical de RFI à 7h52, temps universel. Un mot de foot avant de refermer ce journal. Et ça y est, on connaît le tableau des demi-finales de la Coupe de France. Les deux derniers quarts avaient lieu hier soir. L'AS Cannes, qui s'était qualifié mardi, fait figure de petit pousset dans ce dernier carré. Le club de National 2 au quatrième échelon a éliminé Guingamp, club de Ligue 2, 3-1. Au cœur de cette aventure du club du sud-est de la France, une vieille connaissance de la Ligue 1. L'ex-international sénégalais Cherne Doy, l'ancien milieu d'Angers, fêtera le mois prochain ses 39 ans.
Ah, déjà une fierté, j'ai reçu beaucoup de fierté venant de mes coéquipiers. On a fait un parcours incroyable, personne ne nous attendait. Tout le monde nous voyait perdants et aujourd'hui on a la chance de jouer à domicile et de jouer une demi-finale. Ça c'est magnifique, c'est incroyable. C'est des moments inoubliables dans une carrière d'un footballeur. On va pas se cacher là, on va aller à fond jusqu'au Stade de France. Donc c'est un rêve. J'ai eu la chance de faire la finale en 2017 avec Angers. Et aujourd'hui, si je peux encore faire une deuxième finale, pourquoi pas.
Cherne Doy au micro de Sofiane Amazian, hier soir dans Radio Foot International, émission à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Il est 3h45 en temps universel. Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Entre inflation, pénurie et fuite des cerveaux, les petites et moyennes entreprises de Tunisie subissent toujours les effets de la pandémie de Covid. Reportage d'Afrique Économie à Tunis dans quelques minutes. Direction ensuite le Kenya. C'est là que la chronique des matières premières a posé ses valises ce matin. On parle du secteur de la viande en très bonne forme. Et puis on est à La Réunion avec nos confrères de La Première, l'île Bourbon, frappée dans les prochaines heures par le cyclone Garance. Mais d'abord, on part pour le Maroc, Casablanca, la capitale économique, plusieurs millions d'habitants, mais seulement une seule forêt, celle de Bouskoura, véritable poumon vert de la ville. Seulement voilà, ces arbres ne sont pas en bonne santé. Ils sont victimes, comme le reste du pays, de la sécheresse qui sévit depuis 7 ans. Alors pour pallier le manque d'eau et éviter les maladies et les insectes ravageurs, un programme d'urgence a été lancé en décembre pour sauver Bouskoura. RFI reportage, Mathias Reynal.
La forêt est située à la sortie de Casablanca, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville.
C'est très fréquenté. On compte généralement 6000 promeneurs au printemps, le week-end.
Ça, c'est pour les pics de fréquentation. Au moment où nous traversons Bouskoura avec Irsan Amar, la chef du service animation et partenariat de l'Agence nationale des eaux et forêts à Casablanca, nous sommes en janvier. Et malgré le froid, la pluie, quelques sportifs font quand même leur footing, des familles se baladent.
Au territoire du Grand Casablanca, on a uniquement cette forêt. C'est un lieu très apprécié par les Casablancais, en quête de détente, de loisirs, d'air pur.
Bouskoura est ce qu'on appelle une forêt récréative. Elle compte de nombreux aménagements, des aires de jeu, des espaces pour pique-niquer.
Aziz Hanfawi, chef de district proximité de Bouskoura.
Veste, camouflage et pantalon olive, Aziz a commencé à veiller sur la forêt il y a 8 ans.
La forêt n'était pas dans cet état-là. Le virage qu'a connu la forêt, c'est à partir de 2021, malheureusement avec le changement climatique. Mais on va essayer de s'adapter afin de préserver ce patrimoine.
La forêt joue un rôle écologique majeur en tant que réservoir de carbone. Elle offre aussi une protection des sols et de la biodiversité.
Durant ces dernières années, on a constaté des dépérissements massifs au niveau de la forêt de Bouskoura, des mortalités d'arbres qui ont déclenché la sonnette d'alarme pour la nef.
Ismaili Rifka est la directrice provinciale de l'Agence nationale des eaux et forêts, la nef.
Donc si on observe bien le paysage, le point sur le point où on se trouve, à droite c'est un peuplement à base de pins d'Alep. On voit presque le ciel parce que les arbres ont perdu une grande partie de leur feuillage.
La sécheresse a rendu les arbres plus vulnérables aux insectes, aux champignons.
Les interventions au niveau de cette zone, on portait essentiellement sur les travaux de sylviculture. C'est un nettoyage qui se fait pied par pied. Il touche uniquement les arbres morts.
Le programme d'urgence de la nef est censé durer 2 ans et prévoit le reboisement de 147 hectares. Des espèces plus résistantes seront plantées comme le caroubier, un arbre local. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Un reportage à lire et réécouter sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
4h49, ici à Paris, on fait le point sur les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 27 février. Le Hamas a restitué cette nuit les corps de 4 otages israéliens morts à Gaza. Un premier bus de prisonniers palestiniens est arrivé en Cisjordanie dans la foulée. Sur les 600 qui doivent être libérés par Israël dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza qui expire samedi, l'incertitude pèse sur la suite du cessez-le-feu. Les termes de la deuxième phase, censée débuter le 2 mars, est débouchée sur la fin fin définitive de la guerre et la libération de tous les otages n'ont pas encore été négociées. L'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis, les mots de Donald Trump hier. Nouvelle déclaration choc du président américain lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche hier. Le républicain a répété que les produits européens feraient l'objet prochainement de 25% de droits de douane. L'administration Trump, qui a par ailleurs décidé de supprimer 92% des financements de l'USAID, l'agence américaine pour le développement promise au démantèlement, suppression qui répond à une décision de justice qui avait suspendu le gel de ses financements décrétés il y a un mois. USAID, c'était 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde. D'inflation annuelle, hausse des prix des matières premières et pénurie de certains produits. En Tunisie, les petites et moyennes entreprises subissent encore les effets de la pandémie de Covid. Les TPE et PME, c'est 80% du tissu économique tunisien, mais en 2023, 200 000 d'entre elles étaient en difficulté financière, selon l'Association tunisienne des petites et moyennes entreprises. Alors comment l'expliquer et comment faire face ? Reportage d'Afrique Éco, signé Lilia Blaise.
Dans son restaurant de street food El Koucha, dans le quartier de Menza 5 à Tunis, Emna Medguiche a l'air soucieux. Malgré le succès de son commerce, elle doit s'adapter chaque jour à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Malheureusement, les deux dernières années ont été particulièrement difficiles parce qu'on fait face à une inflation à deux chiffres sur certaines matières. Je dirais que la dernière en date qui nous a mis vraiment en difficulté, c'est l'approvisionnement en volaille depuis l'été dernier et l'inflation des prix de volaille. Parce que, en gros, en Tunisie, ce qu'on faisait avant, c'est le prix bas de la volaille permet d'équilibrer les coûts de manière plus globale.
Jambes aussi. Okay.
Le prix moyen de la volaille a augmenté de près de 19% entre 2023 et 2024. Emna a dû réduire ses marges et fait aussi face aux autres conséquences de la crise économique.
La première, c'est la hausse des matières premières. La deuxième, c'est la main-d'œuvre qualifiée qui est en train de partir dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc qui se prépare pour la Coupe du Monde, la France, l'Europe. C'est une grosse difficulté. Et la troisième, c'est la baisse de pouvoir d'achat.
Si Emna parvient à se maintenir à flot, d'autres ont dû prendre des mesures drastiques. Catherine Fournier, franco-tunisienne, dirige une petite entreprise dans le secteur des ressources humaines. Elle a subi une baisse d'activité car beaucoup d'entreprises ont coupé les budgets en matière d'externalisation du recrutement.
Moi, mon choix, ça a été notamment, par exemple, de passer en coworking space au lieu de garder un local en propre pour diminuer les charges. Ça, c'était le premier réflexe. Et puis, bon, après, c'est effectivement de continuer d'essayer de faire de la croissance en développement au niveau commercial. Et puis d'essayer de créer peut-être plus de dynamique de partenariat.
Comme Emna, malgré un réseau professionnel développé, elle se sent à l'écart des systèmes de soutien financier.
Je ne dis pas qu'il faut nous passer certaines choses, ce n'est pas du tout le cas. On doit payer des impôts comme tout le monde, c'est normal. Mais peut-être que si on était un peu mieux traité et qu'on avait des systèmes un petit peu plus souples, ça nous aiderait à créer de la trésorerie. Parce que finalement, une TPE, voilà, c'est tout. On est toujours des sociétés de services et le cœur du problème, c'est la trésorerie.
Beaucoup ne peuvent plus répondre aux exigences en termes de garantie et donc n'arrivent plus à trouver des financements. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Un reportage d'Afrique Éco à réécouter sur l'application RFI Pure Radio.
Nairobi, 89.9 FM.
La chronique des matières premières, c'est un secteur porteur de l'économie kényane. Le marché de la viande est en pleine forme, 304 milliards de shillings kényans en 2023, soit environ 225 millions d'euros. Un chiffre d'affaires porté par la consommation en hausse constante malgré des prix de plus en plus élevés. Gaëlle Lalex.
Le Kenya a produit environ 557 000 tonnes de viande en 2023, soit une hausse de près de 20% par rapport à l'année précédente, un record. 65% de cette viande est consommée localement, selon le Bureau kényan des statistiques. Le poulet reste la protéine préférée des Kenyans, mais la viande rouge s'invite de plus en plus dans les assiettes. Sa consommation a augmenté de plus de 23% en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette hausse de la consommation de viande est d'autant plus remarquable que les prix prix, eux aussi, augmentent, plus 29% sur ces 5 dernières années. Selon un rapport du bureau export du ministère néerlandais de l'agriculture, le marché kényan est en pleine expansion grâce notamment à l'urbanisation tirée par les deux grandes villes du pays, Nairobi et Mombasa. En 2019, 300 000 tonnes de viande manquaient pour répondre aux besoins nationaux. L'un des principaux enjeux reste celui de la structuration de la filière, poursuit l'enquête néerlandaise. Études de marché, abattoirs, chaînes du froid restent encore de véritables défis, mais le ministère néerlandais y voit une belle opportunité d'investissement. D'autant plus que le bétail kényan, lui, se porte bien. Le nombre de têtes continue d'augmenter malgré les défis climatiques que rencontre le pays. 80 millions d'animaux ont été abattus en 2023 contre 66 millions en 2020. Certains acteurs se sont même lancés dans l'exportation de viande. C'est le cas de la Commission kényane de la viande, le plus important abattoir du Kenya et de la Corne. Elle exporte 500 tonnes de viande de chèvres, de moutons et de bœufs par an. Ses principaux marchés se trouvent en Afrique, comme l'Égypte, le Soudan, la Tanzanie ou encore le Libéria. Mais la Commission kényane de la viande vend aussi au Proche-Orient et même en Malaisie.
Gaëlle Lalex pour la chronique des matières premières. 3h55 en temps universel. Avant de retrouver Marion Cazanov pour le journal, on fait un détour par les territoires français de l'océan Indien avec nos confrères de La Première. À la une, ce matin, une question. La Réunion sera-t-elle directement touchée par Garance ? Le cyclone pourrait frapper l'île Bourbon aujourd'hui ou la nuit prochaine. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Philosophe ou résigné, après tout, les cyclones font partie de la vie locale depuis plus de 350 ans, les Réunionnais se préparent à quelques journées difficiles. Écoutez ce reportage de Priscilla Etève dans une grande surface de la commune de Saint-André, dans l'est de la Réunion.
Dans son caddie de course à la caisse de ce supermarché saint-andréen, Marie-Annick a 4 bonbonnes de 5 litres d'eau.
Bah pour le cyclone, bien sûr.
Mais pas seulement.
De toute façon, tous les jours, m'y achète, alors, tout le temps.
Et là, on achète un peu plus par rapport le système y arrive ?
Non, comme d'habitude.
Ou a fait d'autres provisions, mis à part l'eau ?
Non, il faut manger ça dans le congélateur d'abord, hein, parce que c'est la coupée.
Séverine ne s'alarme pas non plus, mais justement, elle prévoit pour les éventuelles coupures d'eau ou d'électricité.
Par exemple, prendre des piles ou des bouteilles d'eau, parce qu'on ne sait jamais, au cas où, si l'électricité coupe. Enfin, on ne peut pas savoir à l'avance, donc vaut mieux prévoir un petit peu quand même.
Dans le rayon eau, les packs de 8 ou de 6 bouteilles partaient au compte-gouttes ce mardi matin. Pas de bousculade. Gilles, par exemple, est venu en chercher pour sa consommation de tous les jours. Sinon, il a tout prévu pour l'arrivée de la tempête Garance.
On a vécu à Mayotte longtemps, donc on a l'habitude d'avoir des stocks. On a toujours un petit peu pour survivre à une semaine ou deux semaines.
À l'inverse, Léopold ne prépare rien du tout, persuadé que l'est de l'île sera épargné par le météore.
Le cyclone ne sera pas pour nous. Ça va passer de l'autre côté dans le sud, ça va pas pour de l'est ici.
Sans surprise, après le déclenchement de l'alerte orange, ce mercredi, depuis 14 heures locales, le préfet de la Réunion et la directrice interrégionale de Météo France ont fait un point de situation à 18 heures, toujours locale, 15 heures, heure de Paris, hier après-midi. La forte tempête tropicale Garance s'étant intensifiée, le scénario de menace directe restant envisagé, l'alerte rouge sera déclenchée dans la journée de jeudi, a déclaré le préfet Patrice Latron. Par ailleurs, Garance pourrait affecter l'île tout entière, aucune région n'étant véritablement à l'abri. Comme le précisait à la mi-journée, hier mercredi, Tariq Kriyat de Météo France. Il répondait en direct aux questions de Florent Marot.
Elle pourrait passer à proximité immédiate de voir sur la Réunion en cours de nuit de jeudi à vendredi.
Et on parle d'une distance de moins de 50 km, voire sur la Réunion, hein, c'est ça ?
On est dans les marges d'incertitude, on ne peut pas dire à l'heure actuelle si le système va passer sur la Réunion, il pourrait passer un peu à l'est, un peu à l'ouest. Ça fait partie c'est encore incertain à l'heure actuelle.
Et Garance sera toujours une forte tempête ou elle pourrait devenir cyclone à ce moment-là ?
Alors Garance est en train de s'intensifier, ça devrait devenir un cyclone tropical dans les prochaines 24 heures, voire un cyclone tropical intense. faudra attendre vraiment la journée de la fin de journée de jeudi, la deuxième partie de journée de jeudi, pour avoir une dégradation un peu plus marquée avec un vent qui va commencer à se renforcer et des pluies également. La houle, dans un même temps, va progressivement monter. La houle de nord-ouest est affectée notamment toute la façade nord de l'île. Et c'est vraiment en fin de journée et en soirée qu'on s'attend, on attend une dégradation très marquée des conditions. Avec voilà des, c'est encore un peu tôt pour avoir des valeurs précises à l'heure actuelle, hein, mais on s'attend à des conditions cycloniques qui pourraient concerner l'ensemble de l'île de la Réunion.
À 17h locale hier après-midi, Garance était située à 370 km dans le nord-nord-ouest de la Réunion. Elle se déplaçait vers l'est à une vitesse d'environ 15 km/h avant, sans doute, hélas, de plonger vers le sud. Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Benoît. Et on continuera évidemment à suivre la progression de ce cyclone sur RFI. C'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information africaine préparée et réalisée ce matin avec Olivier Roux et Pierre Pinto. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'actualité du continent revient dans une demi-heure avec Sébastien Duhamel. D'ici là, vous restez avec nous dans une poignée de secondes, le journal sur RFI.